Bonjour à tous. Donc je vais vous présenter très rapidement le déroulé de cette conférence. Donc dans une première partie, je vais vous parler de un peu comment les sols peuvent réguler la concentration en CO2 atmosphérique et donc être un facteur de régulation du climat. Dans une seconde partie, on va s'intéresser aux évolutions actuelles du stock de carbone des sols et celles qui sont attendues d'ici la fin du siècle. Et dans une dernière partie de la présentation, je vous mentionnerai quelques politiques qui visent à augmenter les stocks de carbone dans les sols au niveau international et également au niveau national ou local. Donc je vous parle des sols, mais peut-être que c'est important de rapidement préciser un peu ce qu'on entend par sol. Donc c'est vraiment la surface continentale jusqu'à la roche, on va dire une roche bien dure, une roche très peu altérée. Donc on va parler généralement du premier mètre, 2 mètres, jusqu'à quelques dizaines de mètres, mais rarement plus. On va dire qu'en France, le sol tel qu'on le considère, c'est le premier mètre ou les 2 premiers mètres. Donc maintenant, je vais vous parler un peu du cycle du carbone dans les sols. Donc, en fait, nous avons un réservoir de CO2 dans l'atmosphère et les plantes, via la photosynthèse, en utilisant ce CO2 atmosphérique et en utilisant l'eau du sol, grâce à l'énergie solaire, vont pouvoir synthétiser de la matière organique. Et cette matière organique va ensuite constituer des entrées de carbone dans le sol. Donc ce carbone-là sera bien sous forme de matière organique et plus sous forme de CO2. Donc voilà un premier élément. Donc là, c'est les entrées de carbone dans le système sol. On peut avoir des sorties de ce système sol de carbone par érosion ou par lessivage. Mais en fait, ce stock de carbone organique du sol, il va avoir une utilité, il va être utilisé par tous les organismes vivants du sol. La microfaune, la mésofaune et la macrofaune. Tous ces organismes-là dépendent du stock de matière organique pour vivre. C'est leur source d'énergie, leur source de carbone. Donc ces organismes, en fait, ils vont consommer cette matière organique par un processus qu'on appelle la respiration. Et donc, ils vont réémettre du CO2 dans l'atmosphère. Donc là, vous voyez le cycle du carbone entre l'atmosphère et le sol. Donc vous voyez, on a un stock de carbone organique, on a constitué un stock de carbone organique dans le sol avec des entrées et des sorties. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, on a du carbone dans les sols sous des formes très diverses. On peut avoir du carbone sous forme particulière. Donc là, ça va être des débris végétaux, des débris d'animaux qui sont souvent reconnaissables encore à l'œil nu. Et là, en fait, ce carbone particulier, il va rester dans le sol quelques années, éventuellement quelques décennies. Et on va avoir du carbone qui va s'associer à la matière minérale, parce qu'un sol, c'est fait majoritairement de composés minéraux. Et donc, le carbone s'associant aux minéraux va pouvoir avoir un temps de résidence dans le sol beaucoup plus important, plusieurs décennies, jusqu'au siècle, voire plusieurs millénaires. Donc pourquoi est-ce qu'on parle du carbone du sol aujourd'hui ? Donc on l'a dit un peu en introduction, c'est par rapport au rôle climatique qu'on entend de plus en plus, mais en fait on s'intéresse au carbone organique du sol pour bien d'autres raisons. Et donc là je voulais ajouter cette diapositive à l'exposé aujourd'hui pour vous mentionner tous ces rôles. Tout d'abord, on l'a déjà vu juste avant, la matière organique des sols, c'est la réserve d'énergie et de nourriture pour tous les micro-organismes, toute la mésofaune et la macrofaune du sol, tous les organismes du sol. Donc c'est la source de biodiversité du sol, en quelque sorte. Après, cette matière organique, également, elle va pouvoir jouer un rôle pour éventuellement faire de la rétention de polluants. Donc là, c'est le rôle de filtre du sol. Donc on va avoir un sol qui filtre beaucoup mieux quand il est plus riche en matière organique. Également, on va avoir une structure du sol qui va être amélioré quand on a beaucoup de matière organique dans un sol. Donc là, le sol va être capable éventuellement d'infiltrer plus d'eau par rapport au ruissellement. Donc là, on va avoir une régulation des flux et de la qualité des eaux. Et la matière organique dans un sol, il faut savoir qu'elle est chargée généralement négativement, et donc elle va pouvoir absorber plein de nutriments, ceux qui sont chargés positivement, et donc les mettre à disposition des plantes qui vont pouvoir venir piocher tous ces nutriments pour leur croissance. Donc on a un rôle très important de la matière organique pour la fertilité chimique des sols et donc pour la croissance des plantes. Donc vous voyez, cette matière organique a un rôle très important dans les sols. Beaucoup de fonctions de l'écosystème sont liées à la présence de matière organique dans les sols. Et donc un dernier rôle, et on va s'intéresser plus particulièrement à ce rôle-là, à cette fonction-là de la matière organique du sol aujourd'hui, c'est un rôle de régulation du climat. Alors maintenant, je vais vous montrer un schéma qui a l'air peut-être comme ça un tout petit peu complexe. Là, c'est un cycle du carbone un peu élargi. Donc vous voyez, il y a d'autres réservoirs par rapport à ceux que je vous ai mentionnés tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait vu l'atmosphère, on avait vu le sol. Maintenant, j'introduis aussi les océans, par exemple. Et vous voyez, ici, là, sur la gauche, on a du carbone fossile. Donc là, vous voyez, ce que vous voyez ici, ce sont les flux nets de carbone. Et donc, chaque année, on va brûler environ 10 gigatonnes de carbone fossile qui vont se retrouver dans l'atmosphère sous forme de CO2. Alors, ces 10 gigatonnes qu'on va brûler chaque année ne vont pas se retrouver intégralement dans l'atmosphère parce qu'on va être capable d'en piéger une partie. Alors, vous voyez qu'on a une autre source ici. Alors, qu'est-ce que c'est que cette source-là ? Donc, vous avez ici le réservoir de végétation et le réservoir sol. Et donc, en fait, quand on fait un changement d'usage des terres, globalement, en fait, on fait beaucoup de déforestation dans le monde. Et bien là, ça va être aussi une source de carbone important qu'on voit ici. Par contre, on voit que les écosystèmes, la végétation, les sols, sont capables de piéger ici un peu de carbone, de ce carbone qu'on a émis ici. Donc, 2,9 gigatonnes chaque année sont fixées par les écosystèmes. Et ça, c'est lié au fait que les plantes poussent mieux quand il y a beaucoup de CO2 dans l'atmosphère. C'est lié au fait qu'avec le réchauffement climatique, la durée de végétation augmente. Vous avez pu le constater, c'est la phénologie, ça, des plantes. Donc on a en fait un puits écosystémique assez important. Et une autre partie de cet excès de CO2 issu des énergies fossiles va être capté, lui, par l'océan. Ce qui fait que chaque année, finalement, on a 5,4 gigatonnes, alors c'est des ordres de grandeur, qui s'accumulent dans l'atmosphère. Et ces 5 gigatonnes, ça fait que d'année après année, on a une concentration en CO2 atmosphérique qui augmente. Mais aussi, cette diapositive, elle a une importance forte, là, pour cet exposé. C'est que regardez un petit peu la taille du réservoir de carbone du sol. C'est entre 1500 et 2400 gigatonnes de carbone qui sont stockées dans les sols du monde. Donc c'est un réservoir très important qui ne prend même pas en compte le carbone qui est stocké dans les sols gelés des hautes latitudes, ce qu'on appelle les pergélisols ou les permafrosts. Donc voyez un peu les quantités gigantesques de carbone qui sont stockées dans nos sols par rapport à la végétation, donc beaucoup plus que dans la végétation, et quasiment, donc trois fois plus, que entre deux et trois fois plus, que dans l'atmosphère. Donc ce qui fait que si on change la taille du réservoir de carbone des sols d'une manière infime à la hausse ou à la baisse, en fait on va jouer directement et très rapidement sur les concentrations en CO2 de l'atmosphère. Donc je vous ai parlé du stock de carbone, du réservoir de carbone du sol au niveau mondial, mais finalement physiquement sur le terrain, comment est-ce qu'on fait pour mesurer un stock de carbone, c'est-à-dire la quantité de carbone qui est présente dans le sol. Vous voyez, c'est une masse de carbone organique par unité de volume de sol. Alors voici comment on procède, nous, chercheurs. Sur une profondeur donnée de sol, vous voyez ici, là, à peu près sur un mètre, on va mesurer, on va donc prélever le sol, et on va mesurer sa concentration en carbone organique de ce sol. Et donc là, on va prendre de la terre fine, inférieure à 2 mm, et on va être capable, grâce à des analyseurs, de mesurer la masse de carbone par unité de masse de sol. Mais attention, il faut qu'on puisse aussi prendre en compte le volume de cailloux et la masse de cailloux qui est présente dans le sol. Donc, on va faire une mesure de densité apparente. Alors là, j'ai même mis quelques petites photos pour vous expliquer. Donc, vous voyez ici, on prélève un cylindre de volume connu du sol. On va le sécher, on va le peser pour avoir la masse de terre sèche. Ensuite, on va pouvoir, en tamisant par voie humide, on va pouvoir peser la masse d'éléments grossiers plus gros que 2 mm. Et il y aura des racines, il y aura essentiellement des cailloux, surtout en masse. Et à la fin, on retient cette masse de cailloux qu'on va retrancher à la masse totale sèche du sol. Donc finalement, on va calculer la masse de carbone organique par unité de volume grâce à ces trois informations, la profondeur du sol, la concentration de carbone organique du sol et la densité apparente du sol. On va exprimer ces stocks de carbone organique du sol dans des unités courantes, hein, qui ne sont pas un système international, mais généralement on parle de tonnes de carbone par hectare. Et tout ça sur une profondeur donnée, parce que je vous ai bien dit que c'est par unité de volume. Donc par usage, on parle toujours par hectare, mais comme c'est un volume, il faut bien préciser, attention, ça sera un stock sur 30 cm ou sur 1 mètre qu'on exprimera. Et les gammes de valeurs que je vous donne là tout de suite, pour que vous ayez un peu des chiffres en tête dès le début de cette présentation, c'est que sur 1 mètre, on pourra avoir entre 0 tonne de carbone par hectare, donc ça c'est si on est directement sur la roche. Par contre, si on a un sol assez profond, et il y a certains sols très riches en matière organique, on peut aller parfois jusqu'à 400 tonnes de carbone par hectare sur une profondeur d'un mètre. Donc là, je vous ai montré la manière un peu classique de mesurer les stocks de carbone, mais rêvons un peu, et dans le futur, est-ce qu'on pourra aller un petit peu plus vite? Eh bien oui, il y a pas mal de collègues qui développent différentes techniques. Ici, vous voyez un spectromètre infrarouge qu'on peut directement emmener sur le terrain. Et en fait, par cette technique de spectroscopie, nos collègues, donc ici des collègues de Montpellier, ont été capables de démontrer qu'en prenant un spectre de sol directement mesuré là sur une carotte de sol qu'on prend dans un sol agricole, on peut prédire par cette technique de spectroscopie infrarouge la masse de carbone par unité de volume de sol. Donc il y a des voies de progrès, c'est pas encore applicable directement aujourd'hui, mais donc les chercheurs travaillent là-dessus. Rêvons encore un peu plus, d'autres collègues ici à AgroParisTech utilisent des drones. Ils les font voler au-dessus de sol quand ils n'ont pas de végétation, quand ils sont nus au moment du labour. Et là, ils ont été aussi capables, grâce à des détecteurs, soit en imagerie, là j'ai marqué hyperspectral, mais sinon multispectral, donc ils utilisent différents canaux, souvent dans l'infrarouge, dans le proche infrarouge, et ils arrivent à déduire les concentrations, donc là c'est en gros une masse de carbone par unité de masse de sol, c'est pas encore le stock, mais en tout cas on peut spatialiser, grâce à ces outils de télédétection, les quantités de carbone qui sont présentes dans le sol de surface seulement. Là, on n'arrive pas bien à prédire ce qui est en profondeur, hein, vous l'imaginez bien. Donc oui, il y a quelques verrous techniques encore, mais en tout cas, il y a ces voies de progrès pour mesurer les quantités de carbone dans le sol. Donc là, comme c'était une présentation et qu'on est, entre nous ici à Rouen, je voulais qu'on regarde un petit peu, qu'est-ce qu'on connaît du carbone organique dans nos sols autour de Rouen. Donc, Rouen, vous ne voyez pas très bien, mais en fait, Rouen est ici. Et donc, vous voyez ici, ce sont des concentrations, donc là, des masses de carbone par masse de sol, issues de la base de données nationale d'analyse de terre. Et là, ce sont seulement des sols agricoles. Donc, vous voyez qu'on a des zones avec des concentrations en carbone organique. On va dire que là, il est couleur bleue, donc plutôt faible. Et il y a des zones avec ici, vous voyez à l'ouest, des concentrations en carbone organique plus importantes. Alors là, qu'est-ce qui pourrait expliquer ça? Visiblement, on est un peu faible par ici, hein, autour de Rouen. Alors je ne sais pas si vous avez des idées, mais en tout cas, je peux vous donner un indice. En fait, par ici, il y a beaucoup de prairies permanentes. Donc, dans les prairies permanentes, visiblement, il y a pas mal de carbone en quantité, au moins en concentration, par rapport à la zone périphérique de Rouen, où, quand on parle de sol agricole, hein, parce que là, ce ne sont que les sols agricoles, en fait, ce sont plutôt des grandes cultures. Donc, si maintenant, on s'éloigne un petit peu, et on va regarder, cette fois, les stocks de carbone organique des sols français. Donc, vous voyez, nous sommes en stock, donc on parle de tonnes par hectare, et ici, c'est sur une profondeur de 30 cm, et vous voyez que les stocks de carbone sont très variables à l'échelle de la France, et on voit des zones en couleur plus sombre, rouge, brun sombre, et des zones un peu plus claires, jaunes, voire très claires, qui là ont des stocks de carbone beaucoup plus faibles. Alors là, qu'est-ce qu'on reconnaît un petit peu comme variable qui pourrait contrôler les quantités de carbone présentes dans les sols? Eh bien, on subodore, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais qu'au niveau des zones montagneuses, on a beaucoup de carbone. Donc peut-être que le climat a son mot à dire en termes de quantité de carbone présent dans le sol. Après, on voit que les zones de grande culture, ici, visiblement, sont relativement affaiblies en matière organique, en tout cas les stocks plus faibles. Donc là, on retrouve ce qu'on avait un peu subodoré autour de Rouen déjà. Donc peut-être un déterminant d'usage des terres, peut-être un déterminant climatique sur les quantités de carbone stockées dans les sols. Et effectivement, quand on va encore plus loin, on dézoome encore, cette fois on va au niveau mondial, et on regarde la carte des stocks de carbone mondiaux. Et bien là, sur les 30 premiers centimètres de sol, on s'aperçoit que les stocks les plus forts sont au niveau des hautes latitudes, principalement. Mais on voit aussi que dans certaines zones tropicales, on peut avoir des stocks très importants. Donc finalement, dans les zones humides, un peu chaudes, on peut avoir des stocks très importants. Donc là, on voit un contrôle climatique des quantités de carbone. On voit les zones désertiques, là, qui ont extrêmement peu de carbone. Donc dans les déserts, quand il fait surtout très sec, on a très peu de carbone. Par contre, quand il fait froid ou humide, là, on va avoir beaucoup de carbone. Et donc, ça pose une question. En tout cas, vous voyez, si le climat froid conserve le carbone et permet d'en avoir beaucoup, si on a un changement climatique avec un réchauffement, ça pose la question de la vulnérabilité de ce carbone au changement climatique. Donc on a vu un premier déterminant très important des stocks de carbone dans les sols qui est donc le climat, mais le second, qu'on avait déjà un petit peu vu autour de Rouen et en France, c'est l'usage des terres. Et effectivement, là vous voyez sur les 30 premiers centimètres de sol, les données issues du réseau de mesure de qualité des sols français, le RMQS, on a plus de 2000 points qui sont échantillonnés en France, dans une grille systématique de 16 par 16 km. Et tout ça nous a permis, enfin a permis à nos collègues de l'INRA d'Orléans de nous fournir des chiffres par usage des terres. Donc vous voyez que si on est en grande culture ou en verger, on va avoir des stocks de carbone sur 30 cm plutôt faibles, de l'ordre de 50 tonnes par hectare. Mais en vigne, c'est encore pire, 35 tonnes seulement. En prairie, par contre, on a des stocks relativement importants. Donc on retrouve ce qu'on avait vu un peu à l'ouest de Rouen, 80 tonnes par hectare. Et en forêt également, 80 tonnes de carbone par hectare sur 30 premiers centimètres. Alors là, je mets un petit point de vigilance, c'est que l'historique du site va forcément jouer sur le stock de carbone qu'on va avoir présent quelque part. Et là, je vais vous l'illustrer par la diapositive suivante. Imaginons qu'en 1950, nous avions une prairie qui était relativement, qui avait son stock de carbone ici assez fort, et on va dire plutôt à l'équilibre. Et imaginons qu'on ait tout d'un coup, qu'on soit passé à une grande culture. Donc on a un changement d'usage. Changement d'usage, on passe de la prairie à la grande culture en 1970. Donc on va en fait perdre du carbone. Donc imaginons qu'on était ici à peu près 80 tonnes par hectare sur 30 cm, on va passer progressivement jusqu'à 1990 à quelque chose qui est proche de 50 tonnes par hectare. Et là, je vous mets aussi que l'historique d'usage joue, mais on peut peut-être avoir des pratiques en agriculture qui augmentent les stocks, on en reparlera tout à l'heure. Et éventuellement, si on a des pratiques un peu plus stockantes, on pourrait remonter un peu ce niveau de stockage de carbone. Donc l'histoire d'un sol, hein, quand on parle d'un sol de grande culture, il faut savoir que parfois, ce sol de grande culture peut avoir été une prairie, et il n'y a pas si longtemps que ça. Donc un autre déterminant des stocks de carbone dans les sols, c'est alors la géologie et la pédologie. La pédologie, c'est l'étude des sols. Donc la géologie, on imagine bien pourquoi, hein, c'est parce que le sol il est issu de l'altération du matériau parental. Donc finalement, le type de roche qu'on va avoir va finalement déterminer déjà la profondeur du sol, souvent, et également finalement la chimie, l'ambiance physico-chimique du sol, et ça va souvent avoir un rôle important sur les stocks de carbone du sol. Donc maintenant je passe à la deuxième partie de ma présentation sur les évolutions actuelles du stock de carbone des sols. Donc un message que j'ai à vous livrer là, c'est que finalement on ne sait pas encore grand chose, ou en tout cas peu de choses sont vraiment certaines et établies. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les dispositifs d'observation des sols ne sont pas en place depuis très longtemps. Parce que pour pouvoir mesurer et observer des évolutions de stocks de carbone dans le sol, il faut avoir des points fixes sur lesquels on revient à période déterminée. Et bien en fait, ces réseaux-là ont été mis en place très tardivement, parce qu'on s'est intéressé au sol relativement peu, en tout cas pour leur stock de carbone organique. Donc là, je vous montre quand même un réseau de surveillance qui a été mis en place à la fin des années 2000 par le Joint Research Center de la Commission européenne. Il s'appelle donc, le réseau de surveillance des sols Lucas Soil. Là, on a plus de 20 000 points répartis dans l'Union européenne qui ont été échantillonnés en 2009 et qui ont déjà été rééchantillonnés en 2015. Donc en fait, on aura bientôt les évolutions de carbone de ce réseau-là. Pareil pour la France. Alors, je ne vous ai pas représenté le réseau français, mais nous avons un réseau de mesures de qualité des sols dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure. 2000 points mesurés en France. Et là, pareil, la seconde campagne est en cours. Donc, nous aurons bientôt des premiers résultats d'évolution de stock de carbone entre, on va dire, les années 2000 et les années 2015-2020 au niveau français. Mais bon, on a quand même envie de savoir ce qui se passe. Donc, allons voir les données disponibles. Donc, retour dans la région, dans la périphérie de Rouen. Et nous avons quand même quelques bases de données à notre disposition. Donc, on retourne ici, là, cette BDAT, c'est la base d'analyse des terres fournie par donc, le GISSOL, le groupement d'intérêt scientifique sur les sols. Tous les agriculteurs, quand ils font des mesures de leur sol, ils envoient ça à un labo d'analyse régional qui, en fait, a obligation de retransférer ça dans une base nationale. Là, ce sont seulement les concentrations en carbone organique qui sont mesurées. Mais donc nos collègues ont pu, ici, faire des comparaisons d'évolution de ces concentrations en carbone organique. Donc ici, c'est les changements de concentration entre la période 1995-99 et la période 2005-2009, donc sur environ 10 ans. Et vous voyez qu'on a beaucoup de zones où finalement... Donc ça, c'est l'échelle, c'est le canton. Hein. Tout est moyenné par canton parce qu'on n'a pas le droit de révéler l'emplacement exact de la parcelle pour des raisons de confidentialité. Donc on voit qu'on n'a pas d'évolution significative et pour cause, parce qu'en fait là, on mélange les prairies et les grandes cultures. Donc, enfin, c'est pas très clair. Mais malgré ça, on arrive quand même à avoir des cantons qui sont plutôt en diminution et quelques cantons qui sont en augmentation. Mais globalement, on va dire, dans la région de Rouen, peu d'évolution sur cette période. Par contre, donc, la période suivante, de 2005-2009 jusqu'à 2010-2014, donc là, on va dire environ sur 5 ans, eh bien, on voit que là, on n'arrive pas à avoir de diminution. Par contre, on a toujours des zones où on n'a pas d'évolution significative de la concentration en carbone organique du sol, et on a des zones qui augmentent. Donc, ça a l'air plutôt positif. Mais tout ça, ce sont seulement des concentrations, pas des stocks. Et comme on mélange prairies et grandes cultures, c'est pas très clair de comprendre les causes de ces augmentations quand on arrive à les mesurer. On a quand même quelques essais de longue durée en France. Là, on est en terre agricole, grande culture seulement. Des collègues de différents instituts ont compilé les données de 60 essais répartis dans 20 sites en France. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de tout nouveau. C'est pour ça qu'on commence enfin à avoir des résultats d'évolution de ces stocks de carbone dans les sols français. Et donc, vous voyez que dans ces 60 essais répartis sur 20 sites en France, là, vous avez la carte, en fait, on a une majorité des essais qui perdent du carbone. Et là, on est bien en stock. Donc ici, j'ai reporté les évolutions de stock en tonnes de carbone par hectare et par an. Donc ça veut dire, ici, qu'on a plutôt, majoritairement, une perte de carbone. On a seulement quelques essais qui gagnent du carbone ici, et on a quand même 42% des essais qui sont dans une situation considérée à l'équilibre. Et là, ces essais ont une durée entre 8 ans et 40 ans, selon les essais. Donc au niveau français, là c'est encore une carte de concentration. On peut aussi aller regarder, donc vous pouvez aller, tout ça ce sont des informations auxquelles vous pouvez avoir accès. Donc il y a un site qui s'appelle Geoid, et vous pouvez aussi aller sur le site du GISSOL, sur la base d'analyse de terre, vous pouvez avoir accès à ces données quantitatives de concentration en carbone organique des sols et leur évolution sur certaines périodes. Et donc là on voit qu'on a des zones en augmentation, des zones en diminution aussi au niveau français. Là, je vous livre les résultats d'une étude qui sera bientôt publiée. En fait, ce qu'on retient comme évolution en prairie permanente aujourd'hui en France, c'est une très légère augmentation des stocks de carbone, environ 50 kg de carbone par hectare et par an dans les prairies permanentes. Donc tout ça, c'est pas mal. Soit on les maintient, soit on les augmente. Donc il faut essayer de conserver et renforcer cette tendance. Par contre, en grande culture française, les données qu'on a pu synthétiser au niveau national aujourd'hui nous montre, et vous l'avez vu juste avant sur les essais dans l'article du Clivo juste avant, qu'en fait on perd environ une moyenne de 100 kg de carbone par hectare et par an dans les grandes cultures françaises. Donc là, bah, il faut faire mieux, il faut essayer d'arrêter cette perte de carbone de nos sols de grandes cultures, essayer de maintenir les stocks actuels, voire et peut-être de les augmenter. Et maintenant, allons faire un tour en forêt. Donc là, nous avons un réseau, grâce à nos collègues forestiers de l'ONF, le réseau qui s'appelle René Cofort, 100 placettes forestières réparties en France. Vous avez la carte à droite. Et là, vous voyez qu'en fait, les forêts de conifères stockent pas mal de carbone. Donc on a une évolution, vraiment, vraiment une valeur de stockage, comme précédemment. Donc on a environ une demi-tonne de carbone par hectare et par an qui est stockée dans les sols des forêts de conifères. Les feuillus, un petit peu moins, mais c'est tout de même significatif. On a environ 0,2 tonnes, donc 200 kg de carbone par hectare et par an qui sont stockés dans les forêts de feuillus françaises. Donc on a ce qu'on a retenu dans l'étude nationale française aujourd'hui, c'est qu'on a une moyenne, un stockage significatif, donc on est très satisfait avec environ, donc ce qu'on retient pour la forêt française, mais c'est vraiment une moyenne en attendant des données plus précises du réseau de mesure de qualité des sols, on a à peu près plus 175 kg de carbone par hectare et par an qui sont stockés dans les sols forestiers français. Donc dans cette deuxième partie, je vous avais dit qu'on essaierait de réfléchir à ce qui allait se passer d'ici la fin du siècle. Et bien là, en fait, c'est compliqué. Donc pour ça, on utilise des modèles. Donc on a des modèles d'évolution des stocks de carbone dans les sols. Donc là, je vous ai donné deux grands modèles. Ce modèle sur la gauche là qui vous donne des évolutions qui vous voyez peuvent être très contrastées. Donc là c'est vraiment le changement de stock de carbone en 2100 par rapport à l'actuel. Donc vous voyez qu'il y a des zones qui stockent quasiment 100 tonnes de carbone par hectare, donc extrêmement une très grosse augmentation, et des zones qui perdent quasiment 100 tonnes par hectare. Donc des évolutions extrêmement contrastées. Par contre, un autre modèle dit des choses complètement différentes. Donc en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'aujourd'hui, on a une incertitude vraiment extrême. Et au niveau global, en fait, les meilleurs modèles dont on dispose aujourd'hui nous prédisent que, en fait, pour un scénario climatique identique, soit on va perdre 72 gigatonnes de carbone issus du réservoir sol d'ici 2100, soit on va en stocker 253. Donc, en fait, on ne sait rien. Et alors, quand on change les scénarios de climat, là, les modèles sont encore plus incertains. Donc, aujourd'hui, en fait, malheureusement, on est complètement incapable de pouvoir prédire ce que seront les stocks de carbone, la taille du réservoir carbone des sols à l'horizon 2100. Donc, ça, c'est un vrai problème et c'est l'objet de recherches très intenses en ce moment. Et donc on a vu, on a des zones qui stockent un peu, on va dire au moins les écosystèmes forestiers français, pour ce que je vous ai montré. On a l'air de maintenir les stocks en prairie, mais par contre on en perd en grande culture. Donc on veut augmenter ces stocks de carbone dans les sols. Donc maintenant j'arrive à ma troisième partie de ma présentation, où en fait on a des politiques qui sont en train d'être mises en place aujourd'hui pour augmenter les stocks de carbone dans les sols. Donc au niveau international, la France a porté l'initiative 4 pour 1000 en 2015 à l'occasion de la COP21. Donc là, on va reprendre, je ne sais pas si vous vous souvenez d'une diapositive du cycle du carbone un peu global que je vous ai présenté tout à l'heure. Vous avez dit que le réservoir sol de carbone pouvait contenir jusqu'à 2400 gigatonnes de carbone. Je vous ai aussi dit que les émissions de gaz à effet de serre anthropique issues de la consommation des énergies fossiles, c'était un flux annuel d'environ 10 gigatonnes. Eh bien, si on fait simplement le calcul de Cointable 10, donc le flux annuel lié à la consommation d'énergie fossile, divisé par 2400, donc ça, le stock, la taille du stock du réservoir carbone dans le sol, eh bien, en fait, on obtient 4 pour 1000. Et qu'est-ce que ça veut dire, ce chiffre? Ça veut dire que si chaque année, on réussissait à augmenter de 4 pour 1000 la taille du réservoir carbone du sol, et bien en fait, tout ça représenterait 10 gigatonnes. C'est-à-dire qu'on stockerait chaque année 10 gigatonnes dans le réservoir sol. Donc ça pourrait venir compenser complètement les émissions anthropiques de gaz à effet de serre. Donc là, les politiques ont dit, dis donc, votre réservoir, il a un potentiel d'atténuation du changement climatique très fort. Donc, on a essayé, enfin, les politiques ont lancé à la COP21 cette initiative pour essayer d'augmenter de 4 pour 1000 les stocks de carbone dans les sols. Mais attention, donc là, je vous ai dit le cas favorable, mais ce petit calcul, ce qu'il implique aussi, c'est que si chaque année on diminue de 4 pour 1000 la taille du réservoir carbone des sols, et ben en fait, on va émettre 10 gigatonnes supplémentaires de carbone dans l'atmosphère. Et donc ça voudrait dire qu'on doublerait ce qu'on envoie déjà lié aux énergies fossiles. Donc c'est un peu une bombe à retardement, le réservoir de carbone dans les sols. Donc il faut être très prudent, essayer au moins déjà de maintenir à l'état d'équilibre les stocks actuels pour ne pas renforcer et augmenter les concentrations en CO2 atmosphérique. Et vous l'avez vu, en forêt, il semble qu'on arrive à stocker du carbone, aujourd'hui en tout cas dans les conditions tempérées françaises. Par contre, dans nos conditions tempérées, notre agriculture déstocke du carbone, donc elle est une source nette de CO2 pour l'atmosphère. Donc on a un enjeu très fort, c'est d'arrêter cette perte de carbone de nos sols agricoles. Donc cette initiative 4 pour 1000, elle vise à séquestrer du carbone dans les sols, donc pour atténuer les changements climatiques, ça on l'a vu. Mais finalement, elle a aussi un deuxième rôle très important, et c'est pour ça qu'elle s'appelle Initiative 4 pour 1000, les sols pour la sécurité alimentaire et le climat. C'est qu'en fait, avoir plus de carbone dans le sol, ça permet aussi d'adapter l'agriculture au changement climatique. Ça, vous vous souvenez de la diapositive où je vous ai montré l'ensemble des fonctions liées au carbone organique du sol. Donc, on va avoir une meilleure fertilité chimique, on va avoir une meilleure infiltration de l'eau. Donc, tout ça, en fait, nous permet de stabiliser, si ça ne les augmente pas, au moins stabiliser des rendements, par exemple les mauvaises années et les années de sécheresse. Donc ça, c'est vraiment très important, avoir une agriculture plus résiliente en ayant plus de carbone dans le sol. Et par ailleurs, donc, si on a du carbone dans le sol, on a aussi tous les autres bénéfices liés à la qualité de l'eau que je vous ai mentionné tout à l'heure, donc moins de polluants qui peuvent aller dans les nappes phréatiques, et également une biodiversité du sol améliorée, parce que plus de carbone du sol, c'est des organismes qui se nourrissent mieux, ils ont plus de sources d'énergie à leur disposition. Donc finalement, comment on va faire pour augmenter ces stocks de carbone organique du sol? Il y a cette initiative internationale qui est lancée, très bien, mais maintenant il faut y aller, il faut faire ce côté opérationnel. Une solution, finalement, c'est d'augmenter les entrées, parce que si on veut augmenter la taille du réservoir, on peut soit augmenter les entrées, soit diminuer les sorties. Diminuer les sorties, c'est pas forcément simple à maîtriser. Par contre, augmenter les entrées, peut-être qu'on est capable, de manière très opérationnelle, de le faire. Et comment ? On va essayer de mettre en œuvre des pratiques de gestion. Ici, je vous donne l'exemple en agriculture, des pratiques qu'on va qualifier de stockantes. Donc, parmi les différentes options qui sont envisagées, vous voyez qu'on peut avoir un couvert végétal permanent. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier de ce que c'est, mais en fait, ça veut dire en quelque sorte des cultures intermédiaires. Quand on va avoir une culture de maïs, par exemple, notre sol peut être nu une bonne partie de l'année. Et donc là, si on met une culture intermédiaire en hiver, par exemple une moutarde, on va maximiser la période pendant laquelle il y a de la photosynthèse sur notre parcelle. Et donc ça, tout ça va nous faire plus d'entrée de carbone par unité de surface dans le sol. De la même façon, on peut aussi planter des arbres au milieu des champs. Donc ça, c'est la technique vue par l'agroforesterie. Donc l'agroforesterie, c'est au milieu de terres arables, venir planter des lignes d'arbres. Et là, en fait, on va aussi augmenter les entrées par unité de surface. Donc c'est tout simple, on augmente la photosynthèse par hectare. Et donc, augmentant les entrées, on va augmenter le stock de carbone du sol. Pareil pour les vignes, on peut également essayer d'enherber les vignes. Donc là, ce qu'on appelle des cultures intercalaires, parce qu'elles vont être entre les rangs de vignes. On peut aussi améliorer la gestion des prairies, par exemple. Donc ça veut dire mieux maîtriser la pression de pâturage, éventuellement. Diminuer le nombre de fauches, où on exporte moins de biomasse de la prairie. Donc il y a toutes ces idées de gestion améliorante pour le stock de carbone qui sont à l'étude aujourd'hui. Et je vous donne un chiffre ici, à titre d'exemple. Si on met en place de l'agroforesterie en climat tempéré, alors là, je souligne que c'est dans les systèmes sylvo-arables, c'est-à-dire on plante des lignes d'arbres dans des terres de grande culture, pas sur des prairies. Dans ces conditions-là, on va stocker un quart de tonne de carbone par hectare chaque année. 0,25 tonnes. Donc 250 kilos de carbone qui sont stockés chaque année. Et ça, c'est quelque chose qui va être, qui va durer plusieurs décennies. Donc voilà une façon d'augmenter les stocks de carbone très significative. D'autres pratiques stockantes, ça peut être d'aller épandre des produits résiduaires organiques, des composts, des bouts de stations d'épuration. Donc tout ça, c'est pas vraiment de la fixation de nouveaux carbones sur une surface agricole. C'est un déplacement latéral, c'est-à-dire que la photosynthèse a eu lieu quelque part, mais finalement ce carbone, on va le restituer au sol sur des parcelles agricoles. Et tout ça va pouvoir permettre également d'augmenter très significativement le stock de carbone du sol. Et donc là, l'étude qui sortira bientôt au niveau national montre que des combinaisons de pratiques stockantes peuvent amener assez simplement, parmi celles que je vous ai montrées, on peut en combiner certaines, on peut arriver à avoir 300 kg de carbone par hectare et par an qui sont stockés chaque année dans les sols agricoles français, ou en tout cas dans les grandes cultures. Donc tout ça, c'est ce potentiel de stockage de carbone dans les sols français. Donc il y aura un grand colloque le 13 juin à Paris sur l'étude 4 pour 1000 France, où on a essayé d'évaluer ce potentiel de stockage de carbone dans nos sols. Et aussi une originalité forte de cette étude, c'est qu'on s'est posé la question de combien ça allait coûter. Parce que c'est bien beau de vouloir stocker plus de carbone, mais si on doit changer les pratiques de nos agriculteurs, ça peut avoir un coût additionnel. Donc là, il y a toute une équipe d'économistes de l'INRA qui a travaillé pendant 2 ans pour évaluer le coût de chaque tonne de carbone additionnel stockée. Et donc qui a évalué le coût optimal de la tonne de carbone stockée. Donc une chose que je ne vous ai pas mentionnée, c'est que c'est bien beau d'essayer d'augmenter les stocks de carbone, mais en fait quand on veut augmenter le stock de carbone d'un sol, on a une borne supérieure. Donc imaginons que je mette en œuvre une pratique stockante, qu'on a qualifiée, c'est l'agroforesterie, donc on va stocker 250 kg de carbone par hectare chaque année. Ça, c'est une moyenne sur 20 ans à peu près. En fait, ce n'est pas une augmentation linéaire. On peut des fois avoir une augmentation rapide au début, puis plus lente à la fin, ou des fois un peu une forme un peu contraire. Mais toujours, dans tous les cas, si on augmente les entrées de carbone dans le réservoir sol, ce qui va se passer, c'est que progressivement, le niveau de carbone du sol, vous voyez, qui augmente au cours du temps, depuis le changement de pratique, il va se mettre à l'équilibre avec ces entrées qui, elles, sont continues. Elles sont très importantes, mais c'est les mêmes chaque année. Et donc, finalement, au bout d'un certain nombre d'années, on n'augmentera plus le stock de carbone du sol. Donc, toutes les solutions de stockage de carbone dans les sols, en fait, c'est une solution soit pour atténuer le changement climatique, certes, mais qui est temporaire. On ne pourra pas stocker du carbone dans les sols au-delà de 30 ou 40 ans ou 50 ans, quand c'est un changement de pratique, en tout cas en grande culture. Et puis, une autre question qu'on peut se poser ensemble, donc là on va encore un peu complexifier tout ça, c'est finalement ces pratiques agricoles stockantes. Est-ce qu'elles vont toujours stocker du carbone? Donc là, grosse question, parce que le problème c'est que les stocks de carbone tels qu'ils sont, je vous l'avais montré tout à l'heure, ils ne sont pas à l'équilibre la plupart du temps, parce qu'ils ont tous une histoire. Certains étaient une ancienne prairie, d'autres étaient une ancienne forêt qui a été déforestée. Si on fait une pratique stockante sur un sol dont la trajectoire actuelle est de stocker, très bien, on va stocker encore un peu plus. Donc on aura bien, si on part du T0 ici, au bout d'une vingtaine d'années, on aura vu un stockage additionnel à ce qu'on aurait pu faire sans avoir cette pratique stockante. Donc là, ça sera tout bénéfice en quelque sorte. Par contre, imaginez qu'on avait une ancienne prairie qu'on a transformée en grande culture. Donc vous avez vu le schéma que je vous avais montré tout à l'heure. On est plutôt sur une trajectoire de stock qui baisse. Et ça, en fait, ce stock qui baisse, c'est normal parce que le stock de carbone du sol se met à l'équilibre avec les apports qui sont généralement faits en grande culture et qui sont beaucoup plus faibles qu'en prairie. Et donc ces entrées de carbone étant plus faibles, le stock se met à l'équilibre progressivement sur la ligne rouge avec des entrées faibles. Et si là, moi, je décide d'avoir une pratique stockante, vous voyez, en fait, qui va stocker autant par rapport au niveau de base. Ici, on stocke autant. Malgré tout, si là, j'ai mis en place ma pratique stockante à T0, je viens 20 ans plus tard, en fait, j'ai perdu du carbone. Et donc, si je suis agriculteur et que je suis un peu déçu, parce que j'ai fait tout bien, et je ne pouvais pas faire mieux, j'ai mis en place ma pratique stockante qui, en fait, n'a pas stocké du carbone, mais a évité de déstocker encore plus. Donc, c'est pour ça que dans l'évaluation des quantitatives des stocks de carbone, il faudra toujours prendre en compte ces évolutions tendancielles historiques liées à l'historique des sols. Donc, je vous ai parlé de 4 pour 1000, un beau slogan. Mais finalement, est-ce qu'on pourrait donner des objectifs assez concrets pour stocker du carbone dans les grandes cultures françaises ? Parce que c'est là qu'on a l'impression d'avoir des potentialités pour stocker plus que ce qu'on fait aujourd'hui. Parce que sinon, c'est en forêt qu'on stocke beaucoup, ça on vous l'a montré tout à l'heure. Mais finalement, on n'a pas à changer nos pratiques en forêt. Mais si on veut changer nos pratiques, quel va être notre objectif finalement en grande culture ? Combien on peut stocker ? Eh bien finalement, l'objectif qu'on peut donner à quelqu'un qui est en grande culture en France aujourd'hui, c'est qu'en 35 ans, il pourrait être capable de stocker environ 10 tonnes de carbone par hectare sur 30 cm. Donc ça veut dire que sur une génération, un agriculteur peut se donner l'objectif aujourd'hui, s'il adopte des pratiques stockantes, d'augmenter de 10 tonnes le stock de carbone sur un hectare. Donc ça prend en compte en fait des combinaisons de pratiques stockantes, c'est-à-dire si on stockait 300 kg, donc un tiers de tonne par hectare et par an, en combinant des pratiques stockantes, eh bien on arrive au bout de 30-35 ans à environ 10 tonnes. Donc voilà ce qu'on peut donner comme objectif à l'agriculture française aujourd'hui. Donc maintenant, dans cette partie plutôt liée aux politiques de stockage de carbone, ça c'était assez général, c'est une initiative internationale, le 4 pour 1000, mais qu'est-ce qu'on peut faire au niveau local ? Alors là, je vais vous parler des plans climat air énergie territoriaux, qui sont une obligation pour tous les établissements publics de coopération intercommunale, c'est-à-dire les agglomérations en quelque sorte. Et bien en fait, pour toutes celles qui font plus de 20 000 habitants, c'est-à-dire en fait la majorité de ce qu'on appelle les EPCI, donc ces établissements publics, et bien depuis fin 2018, donc depuis décembre dernier, c'est tout nouveau, ces établissements publics, ils ont obligation d'estimer la séquestration nette de dioxyde de carbone en identifiant au moins les sols agricoles et la forêt. Donc ils doivent... Ces établissements publics, ces agglomérations doivent aujourd'hui quantifier la séquestration nette sur leur territoire. Et en plus, ils doivent réfléchir à des plans d'action pour renforcer le stockage de carbone, notamment alors dans la végétation et aussi dans les sols. Donc concrètement, aujourd'hui, au niveau local, eh bien, vous pouvez aller voir vos agglomérations en leur demandant finalement où est-ce qu'on en est. Et bien justement, on va essayer de le faire ensemble. Donc là, les collègues de l'Agence de l'Environnement, l'ADEME, ont mis au point, à l'occasion de cette nouvelle loi, l'outil qu'ils ont appelé ALDO. Vous aurez ici le lien, vous pouvez tout télécharger, tout est accessible en ligne, gratuitement. Et bien en fait, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de rentrer le numéro de l'EPCI, donc le numéro de l'agglomération, en gros, le numéro de série de l'agglomération. Et donc tout de suite, on voit que notre EPCI, c'est bien Métropole Rouen-Normandie. On a à peu près 500 000 habitants, c'est parfait. Et donc là, tout de suite, on va avoir des stocks et des flux annuels de carbone des écosystèmes. Alors, les stocks, c'est les quantités de carbone stockées. Ici, dans l'écosystème, pas seulement le sol, c'est aussi la végétation. Donc vous avez les stocks des forêts, les stocks des prairies qui sont donnés dans cette colonne ici, des cultures, etc., les sols artificialisés. Et vous avez les flux, donc les flux en tonnes de CO2 équivalent, chaque année, sachant que par convention, quand un flux est négatif, c'est une séquestration. S'il est positif, c'est qu'on perd du carbone. Donc là, ce tableau est un peu complexe, l'idée n'est pas de le détailler tout de suite. Par contre, regardons ce qui se passe pour les sols. Et alors voilà, dans la métropole rouennaise, la distribution des stocks de carbone par type d'usage. Donc vous voyez que 22% des stocks de carbone sont dans les zones de grande culture, 10% seulement sont dans les prairies, effectivement, même si la prairie a toujours des stocks de carbone importants, en fait, sur l'agglomération, il y a peu de prairies. Donc, par contre, un fait important et un usage très important sur la métropole, c'est l'usage forestier. Donc, on a beaucoup de forêts, donc beaucoup de carbone du sol, et ici, dans les forêts. Donc, principalement en forêt de feuillus, mais aussi un peu dans en forêt de résineux, et là, entre les deux, ce sont les forêts mixtes. On a aussi quelques zones humides qui ont du carbone dans leur sol. Et vous voyez que les sols urbains, donc là, les sols urbains artificialisés ceux qui sont imperméabilisés doivent être, je pense, le plus foncé. Et ceux qui ont un petit peu d'espace vert sont les grisés, mais il y en a un peu moins. Donc on a quand même des stocks de carbone non négligeables dans les sols urbains. Alors tout ça, ce ne sont pas des chiffres exacts, ce sont des estimations à partir de moyennes, mais qui ont été régionalisées, quand c'est possible, grâce au réseau de mesure de qualité des sols. Donc là, des données sur la Normandie, mais ce ne sont pas des données de la métropole rouennaise. Mais cela dit, c'est quand même une estimation la plus précise qu'on est capable de faire au niveau scientifique aujourd'hui. C'est des premiers outils pour aider les agglomérations à estimer quelle quantité de carbone j'ai dans mes sols sur l'agglomération rouennaise. Donc maintenant, intéressons-nous un peu au flux de carbone. Et donc là, ça résume un peu le tableau qu'on avait vu tout à l'heure, mais... Donc vous vous rappelez que le flux négatif, c'est une séquestration, et on voit que la forêt, ici, est un énorme puits de carbone. Donc énorme puits de carbone, ça veut dire dans la végétation et dans le sol aussi, mais principalement en fait dans la végétation. Donc on dit que la forêt, c'est un puits de carbone aujourd'hui en France et notamment dans l'agglomération rouennaise, parce qu'on ne prélève pas tout l'accroissement annuel en fait. Mais donc, ça fait que la forêt, dans sa biomasse, accumule énormément, énormément de carbone chaque année. Ah, vous voyez ici, un autre puits de carbone intéressant, ce sont les produits bois. C'est-à-dire que grâce aux travaux de l'inventaire forestier national, ils ont été capables d'estimer l'utilisation de produits bois dans l'agglomération rouennaise. Donc là, c'est vraiment en fonction du nombre de citoyens, ici à peu près 500 000 sur la métropole rouennaise, en utilisant, en achetant des fenêtres en bois, par exemple, au lieu d'acheter des fenêtres en PVC, on stocke durablement du carbone dans les produits bois. Et donc, c'est un puits, chaque année, donc des émissions de CO2 qui sont évitées dans l'atmosphère. Ah, par contre, là, on a une source de carbone, et là, qui est liée à l'artificialisation des sols. Donc les sols artificiels imperméabilisés, eux, ils émettent du carbone, ils sont une source nette. Et donc la période là qui est considérée pour ces flux, c'est entre 2006 et 2012. Et ça, c'est chaque année, donc vous voyez, des flux assez importants de carbone issus de ça. Regardons par exemple, mais qu'est-ce que c'est que cette artificialisation? A-t-elle eu lieu? Et je pense que vous l'avez tous constaté. Là, j'ai pris un exemple vers Grand Couronne. Vous voyez cette petite zone ici, là, autour des Essarts. Alors voici à quoi ça ressemblait sur la carte de l'état-major entre 1800 et 1850. Donc en fait, on avait des zones sans doute un peu d'arboriculture ou des vergers et quelques prairies au milieu d'une grande forêt. Il y avait quelques habitations, mais pas beaucoup. Alors là, on arrive en 1950, on a déjà construit pas mal de maisons et on a encore beaucoup d'agriculture là, on dirait. Finalement, en 2000-2005, donc là, c'est la date à laquelle on a commencé notre évaluation de flux de carbone, on voit qu'on a encore ici pas mal de zones qui sont agricoles. Et en fait, la photo actuelle, on voit qu'on a eu énormément de construction dans cette zone-là. Donc finalement, vous voyez qu'on a bien eu de l'artificialisation, et ça a créé une source de CO2 au niveau de votre territoire. Bon, maintenant, on a vu un peu ce qui se passait, mais est-ce qu'on pourrait essayer de jouer avec cet outil ALDO, c'est-à-dire essayer d'augmenter la séquestration de carbone dans l'agglomération rouennaise? Alors là, on a des aides qui existent déjà, par exemple, pour mettre en place des systèmes d'agroforesterie, donc planter des lignes d'arbres dans les champs. Donc là, j'ai fait une petite simulation grâce à l'outil ALDO de l'Agence de l'Environnement. Et donc, vous voyez, en plantant 3000 hectares de grandes cultures qui serait converti en agroforesterie, donc on fait toujours de la culture, de la grande culture, mais on a planté des lignes d'arbres, on arrive à avoir un puits de carbone très significatif au niveau de l'agglomération rouennaise. Donc ça, c'est si on avait planté ces lignes d'arbres dans 3000 hectares de grande culture en 2006, voilà ce qu'on aurait stocké, ce qu'on aurait stocké comme CO2 chaque année entre 2006 et 2012. Donc maintenant, pour terminer, donc je vous ai parlé de l'initiative 4 pour 1000, je vous ai parlé des plans climat air énergie territoriaux, qui sont une déclinaison locale d'une volonté de stocker du carbone dans les territoires. En fait, il y a aussi d'autres incitations politiques pour stocker du carbone aujourd'hui, dont vous pouvez vous emparer. Par exemple, il y a les labels bas carbone, dont le décret et l'arrêté ont été publiés à la fin de l'année dernière. Et donc là, il va s'agir vraiment de financer volontairement des projets de réduction d'émissions de gaz à effet de serre et des projets locaux. Donc l'idée est toujours d'avoir de nouvelles pratiques stockantes qui vont fixer du carbone, alors soit dans la biomasse, ça peut être dans les haies, dans la biomasse des haies, mais aussi dans le sol. Donc tout ça, les sols sont éligibles, et ça veut dire que ces labels bas carbone viennent certifier pour les entreprises ou les particuliers, les mécènes par exemple, qui voudraient volontairement financer du stockage de carbone dans les écosystèmes et dans les sols, il y aura ce label, ce label est déjà en place, et il y aura des méthodes standardisées qui pourront prendre en compte les sols. Donc voilà des outils très concrets pour vérifier qu'on stocke bien du carbone dans les territoires français aujourd'hui. Et une autre mesure possible d'incitation politique, c'est lié à la politique agricole commune avec son verdissement progressif, dont vous avez peut-être entendu parler. À titre expérimental, il y a des mesures agro-environnementales et climatiques, dont une MAEC dite sol, qui est testée actuellement dans certaines régions pour stocker du carbone dans les sols spécifiquement. Donc là, ça veut dire, l'idée, c'est que dans la future politique agricole commune qui sera décidée pour la période 2021-2027, de payer pour des services environnementaux les agriculteurs et d'accompagner leur transition écologique pour qu'ils puissent, par exemple, stocker plus de carbone, mais aussi d'autres services environnementaux. Donc voilà, maintenant je vais conclure cette présentation. Donc j'espère vous avoir convaincu que les sols sont encore un compartiment qui régule la concentration en CO2 atmosphérique, et que ça peut être à la hausse ou à la baisse, mais que ça peut être sur des pas de temps assez courts. Que les évolutions actuelles des stocks de carbone des sols, elles sont mal connues. Et en tout cas en France, pour l'instant, on estime qu'on a une hausse des stocks de carbone des sols en forêt, qu'on a des stocks de carbone plutôt stables en prairies, légère augmentation, mais qu'on a plutôt une baisse des stocks de carbone en grande culture. Ce qu'on a vu aussi pour le futur, c'est qu'on a un potentiel de stockage additionnel par rapport aux tendances actuelles, qui est quand même fort en agriculture, notamment dans les grandes cultures, mais que par contre, on a peut-être un risque de déstockage de carbone assez important dans les sols qui sont riches aujourd'hui en carbone, donc les sols de prairies, les sols de forêt. Là, on a des réservoirs de carbone qui doivent être préservés. Et enfin, donc cette dernière partie que je viens de vous présenter, c'était pour vous montrer que c'est vraiment important de décliner localement déjà l'évaluation des stocks de carbone des sols, et on n'est encore pas suffisamment précis aujourd'hui à l'échelle des territoires pour bien quantifier les quantités de carbone stockées dans les sols, et également que tous ces projets d'augmentation des stocks de carbone du sol, on peut avoir des grandes initiatives internationales, mais en fait la réalisation elle se fait à l'échelle de la parcelle. Donc on a vraiment besoin de décliner localement tous ces projets et de les suivre par des labels, par des certifications, pour venir vérifier qu'on est bien en train d'augmenter les stocks de carbone dans les sols. Enfin, je voulais quand même encore conclure cette présentation, toujours avec cette même diapositive que je vous ai montrée tout à l'heure, pour vous dire qu'on stocke du carbone dans les sols pour atténuer le changement climatique ou pour adapter l'agriculture au changement climatique, mais en fait pas que, parce que la matière organique dans les sols, c'est au cœur de toutes les fonctions des sols, de nos sols vivants. Et enfin, si vous voulez savoir un tout petit peu plus sur ce que je vous ai présenté aujourd'hui, vous avez un article dont est très largement inspirée cette présentation, de Suzanne Lutfala et quelques autres collègues, dans les Annales des Mines, et donc vous pouvez télécharger gratuitement cet article en ligne. Donc je vous remercie de votre attention, et si vous avez quelques questions, ce sera un plaisir d'y répondre.